Bonjour à tous et à toutes. En tant qu'amateur de jeux vidéo, films et techno, ici sur ce podcast, je vous en fais ma critique et mes impressions. Bienvenue sur Intergénération. Ah ben oui. Ouais, je vais commencer par vous parler du Comic-Con qui s'est passé du 9 octobre au 10. C'était le premier Comic-Con depuis avant pandémie. Fait que ça a été vraiment cool. Il y avait beaucoup de monde. Moi, j'y étais samedi. Je suis arrivé vers les midi et demi à peu près. Puis il y avait une bonne heure de file d'attente. C'est fou la file que ça faisait, là. Ça faisait un gros serpentin en bas, là. Mais ça valait vraiment la peine, par exemple. Mais tu sais, c'était pas super, ça a quand même bien passé, parce que vu qu'il y avait beaucoup de monde, puis il y avait beaucoup de monde costumé aussi, ça faisait beaucoup de choses à regarder. Ça a quand même passé vite, ça avançait bien. Côté passe sanitaire pour le passeport vaccinal, c'est surtout ça, dans le fond, qui faisait la lenteur un peu de l'entrée. Mais un coup passé ça, ça allait bien. Puis, il y avait quand même beaucoup d'exposants. Je pense que d'habitude, il y en a un peu plus que ça, par exemple. Là, c'était un petit peu séparé, là, peut-être vu la distanciation qu'ils essayaient de respecter. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde quand même. Moi, dans le fond, j'y étais le samedi. Quand on est arrivé, c'est sûr que le temps était serré un petit peu. Fait qu'on a eu le temps de faire un petit tour de l'expo. À 2h30, on avait une conférence avec Georges St-Pierre qui était vraiment intéressante. C'est cool. Il a parlé beaucoup de son rôle dans les Avengers de Batroc. Après ça, dans le fond, puis là, il y a eu un petit retard le commencement de la conférence. Fait qu'on est sorti un petit peu en retard aussi. Le temps de sortir, on voulait rentrer dans l'expo, continuer notre visite. Il y avait beaucoup de monde aussi, fait que là, ça faisait comme une autre petite file d'attente pour rentrer dans l'expo. Fait que là, on a fait le tour un petit peu, puis juste le temps de faire le tour, là, on commençait à avoir un fin, puis tout. Puis on avait une autre conférence, nous, à 3h30, mais dans le fond, une conférence, c'était l'orchestre de jeux vidéo. C'était Select Start, l'orchestre Select Start. Excusez, j'ai eu un petit blanc. Ça fait que là, on avait faim entre les deux. Fait que là, on s'est dit, bon, on va aller manger, puis après ça, on va aller voir l'orchestre, on va avoir le temps avant que ça commence. Mais en fin de compte, juste le temps de descendre d'un étage au centre des congrès, il y avait une file de fous pour aller manger aussi, puisqu'il y avait juste un restaurant d'ouvert, dans le fond. Fait que le restaurant du centre des congrès. Fait que là, ça a été vraiment long là, le temps de commander. Là, on a mangé vite, le temps de retourner en haut. Là, on a pu rentrer dans l'orchestre, mais tu sais, ça, j'ai manqué le début un petit peu. J'ai vraiment aimé la musique qu'il faisait, par exemple. Je les connaissais pas, puis j'ai été vraiment agréablement surpris. C'était la première fois que j'assistais à un orchestre de jeux vidéo. Puis c'est vraiment cool là, d'entendre les classiques de jeux qu'on jouait quand on était plus jeune, puis même les nouveaux, les plus récents un petit peu. Là. C'était vraiment cool. Ce qui fait vraiment l'événement aussi dans les Comic-Con, c'est toutes les cosplayers et cosplayers qui se donnent vraiment dans les costumes, là. C'est vraiment beau à voir. Il y en a, c'est fou, là. C'est pareil, soit comme dans le jeu ou dans le film. Il y a vraiment beaucoup de temps, puis sûrement beaucoup d'argent aussi dans les costumes. Je sais qu'il y avait beaucoup de membres de la Légion 501 de Star Wars aussi. Ils étaient au moins une 40-50aine à peu près. Surtout quand ils ont fait la photo de groupe, là, c'était vraiment beau. J'en ai pris, je pense, une vingtaine. C'était vraiment cool. J'ai croisé le Mando, j'ai croisé Boba Fett, Kylo Ren, Darth Vader, beaucoup de troopers, des chasseurs Thaï. C'est vraiment cool quand même. Puis il y avait un de mes préférés, Deadpool, mais il était deux Deadpool avec le costume. Il est vraiment, on dirait vraiment le costume du film, il était vraiment beau le costume. Ouais, fait que ça fait pas mal le tour du Comic-Con. Il y avait beaucoup de cosplayers, puis quand même pas mal d'exposants. Hein. Mais ouais, j'ai bien hâte au prochain. Qui devrait être... Je sais qu'il y a le ShawiCon au mois de février, puis le prochain, je pense, ça va être juste le Comic-Con de Montréal dans le mois de juillet, si je me trompe pas. Mais ouais, j'ai bien hâte. Je vais suivre les dates de près pour être sûr de pas manquer ça encore une fois. Oh, ça fait pas mal le tour pour le Comic-Con de Québec. Je vais enchaîner ça avec le premier jeu que je vais vous parler, un jeu PC qui est sorti en 2021. Ça s'appelle Wild Terra 2 New Land. Le démo est en... Ben, c'est pas un démo, c'est le jeu est encore en développement, mais il est jouable quand même au complet. C'est des développeurs par un studio indépendant russe. Si je prononce bien, ça s'appelle Jovty World. C'est un team de 4 qui ont aucun investissement extérieur puis aucun éditeur. Fait que dans le fond, ils font pratiquement tout eux-autres même. Je trouve ça vraiment cool quand que des programmeurs de jeux ou ils sont capables de se débrouiller eux-autres même pour tout faire. Là, vraiment, c'est je vous lève mon chapeau. C'est un sandbox à la pour les vieux de la vieille, là, à la Ultima Online. Ça ressemble beaucoup, côté graphique, c'est sûr c'est mieux, mais ça ressemble beaucoup à Ultima Online. Puis c'est même assez assumé qu'ils mentionnent sur leur site que c'est comme un Ultima Online dans le fond. Là. Ils se sont vraiment basés là-dessus pour créer leur jeu. C'est pas une suite ou peu importe, là, c'est vraiment le jeu à eux autres, mais ils se sont vraiment basés sur les... la jouabilité un petit peu de Ultima Online, ça y ressemble vraiment beaucoup. Puis moi, vu que j'ai vraiment trippé sur Ultima Online longtemps, ben j'ai trouvé ça vraiment cool, ce petit jeu-là. Lui, il se vend... Dans le fond, moi, je l'ai acheté sur Steam à 39,99$. Puis il y a des packs extra aussi, dans le fond, que tu peux acheter pour avoir plus de stock et compagnie. Les extra packs, dans le fond, t'as le premier... ça marche un petit peu différemment de d'autres jeux. C'est la première fois que je voyais ça. Dans le fond, à chaque pack, t'as des niveaux. T'as environ 5 à 9 niveaux par pack. Fait que dans le fond, plus que le monde achète de pack, plus que les niveaux sont débarrés. Mettons, le premier niveau, ça prenait, je sais pas, moi je te dis un chiffre au hasard de même, là. C'est 50 personnes qui l'achètent. Un coup que les 50 personnes l'ont acheté, là, ils débloquent le premier niveau. Fait que là, tout le monde reçoit les récompenses du premier niveau. Ainsi de suite. Mettons, le deuxième, ça prend 100 personnes. Mais là, quand il y a 100 personnes qui ont acheté ce pack-là, là, t'arrives au level 2 de ce pack-là, là, ils donnent les récompenses à tout le monde. Puis, mettons, le premier pack vaut 49,99$. Ça donne une couple d'affaires, tu sais, pour bâtir des maisons, ça fait quand même. Deuxième pack, il vaut 129,99$. Ça monte de plus en plus, par exemple, c'est sûr qu'à un moment donné... le troisième pack, il est 299, 300 piastres, dans le fond. Ce que je trouve drôle, c'est comme une semi-joke en même temps, dans le fond. Là, mais le quatrième pack, il y en a juste un pack de disponible, puis il est vendu au montant de 300 000$. Mais c'est vraiment drôle, parce que dans le fond, t'as comme une île à toi tout seul dans le jeu, là, t'es comme à toi au complet. J'avoue que c'est sûrement plus qu'une joke, mais d'après moi, le gars qui a bien de l'argent pourrait s'acheter un pack à 300 000$ aussi. pour le restant, par exemple, mettons si... ouais, c'est ça, vu que le jeu est encore en développement, c'est que plus que d'utilisateurs, plus de personnes qui vont acheter le jeu, plus que le jeu va grandir aussi. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est comme plus que du monde qui achète, plus que le jeu est financé pour grandir, pour agrandir le jeu. Bon, je vais faire le tour un petit peu des capacités de votre personnage. Là, tantôt, quand j'ai ouvert le jeu, ça faisait. Tu sais, vu que je jouais une couple de jeux en même temps, celui-là, ça faisait peut-être un mois, je pense, que je l'avais pas ouvert. Puis malheureusement, ma maison, où est-ce que j'avais mon terrain, ma maison, ils ont comme... Dans le fond, quand ça fait trop longtemps que tu t'es pas connecté, d'après moi, ça avait pris un mois ou un peu plus, là, je savais pas, mais toutes tes affaires, ta maison, puis tout ton kit s'en allent tout dans ton inventaire pour laisser de la place. Parce que ça, c'est comme... Tu te promènes dans la map un peu partout, tu décides de faire ton campement n'importe où, à part si t'es dans une grosse ville, là, tu peux pas, là, mais tu sais, dans le bois, dans un champ, tu fais ton campement là, puis là, tu peux... faire une maison, tu peux te faire un grand terrain, faire de l'agriculture, faire des clôtures autour de ton terrain. Fait qu'à un moment donné, ça vient que ça prend de la place quand que tu joues beaucoup puis tu t'agrandis. Fait que c'est sûr que ça prend de la place aussi sur les serveurs, dans le fond. Fait que d'après moi, c'est pour ça que, à un moment donné, si le monde n'y joue plus, même pour pas qu'il y ait des maisons que ça fait 2 ans qu'ils sont là, que personne n'a été, ben là, à un moment donné, il renvoie dans l'inventaire du personnage pour que les autres personnes puissent continuer à jouer puis fabriquer peut-être leur maison à cette place-là. Bon, fait que là, je vais commencer avec les aptitudes. Dans ce jeu-là, tu peux faire n'importe quoi. Tout ce que tu veux faire, là, tu peux à peu près le faire. Tu peux récolter, dans le fond, quand tu veux manger, parce qu'il faut que tu manges dans ce jeu-là. Faut que tu manges de la viande, tout ce qui est féculent, tout ce qui est champignons, légumes, fruits. Puis c'est ça, fait que dans le fond, t'as de l'XP aussi qui monte quand que tu bats des squelettes ou des animaux, peu importe. Fait que là, dans le fond, pour manger, ben là, tu peux récolter des fruits, tu peux te planter des pommiers, tu peux te planter des bledins, dans le fond, tout ce qui est par rapport au manger. Tu peux même te faire cuire, t'as comme un skill de cuisine, dans le fond, que tu peux te faire tes recettes. C'est vraiment complet. T'as le bûcheronnage aussi, que dans le fond, c'est avec ça que tu vas faire tout, soit des meubles en bois, soit tes armes en bois, tes haches, tes arcs, tes flèches, tout ce qui est outillage de bois, ça va te prendre du bois. Fait que là, tu vas bûcher ton bois, tu le coupes en morceaux. Puis si, mettons, tu veux faire ta hache, ben là, ça te prend aussi un autre skill qui est exploitation minière. Fait que là, ben là, tu vas miner du cuivre, du fer, de la pierre, pour faire tous les équipements en métal qui vont sur ta hache, dans le fond. t'as un skill de dépeçage aussi quand que tu chasses les animaux, soit pour la viande ou pour la fourrure, parce qu'avec la fourrure, dans le fond, tu fais du cuir, que tu peux te faire du linge aussi avec. T'as une aptitude d'agriculture aussi, justement, comme je parlais tantôt, pour manger ou vendre même tout ton stock que tu fais, là. Parce que tu sais, t'as des vendeurs dans les villes, ou tu peux échanger avec d'autres joueurs aussi, mais dans le fond, c'est que tu trouves comme un genre de métier que tu vas faire le plus. Ça peut être tanneur, menuisier, tu peux juste aller chasser puis vendre tous tes pots. Ton agriculture, tu peux te faire des champs de bledin puis récolter ça puis aller toutes les vendre après. T'as de la pêche aussi. T'as de la menuiserie, de la maçonnerie, de la poterie, du travail du cuir, de la forge, de la joaillerie pour faire des bijoux. Ça, j'ai pas joué avec ça, par exemple. Ça m'intéressait un peu moins, j'en ai pas vraiment besoin. Mais tu sais, si tu veux faire un peu de tout, t'as pas le choix de monter un peu tes skills dans tout, là, tu sais. Moi, mettons, je voulais me faire un arc, mais là, j'ai pas le choix de monter un peu dans le bûcheronnage pour aller bûcher du bois. Puis j'ai pas le choix de monter mon skill de menuiserie si je veux faire mes arcs, mes flèches. Puis en même temps, j'ai pas le choix d'avoir un petit peu d'exploitation minière pour pouvoir faire mes pointes en métal. Fait que là, je vais miner du cuivre ou du métal pour pouvoir faire la forge. T'sais, avec ma forge, ben là, je vais faire mes petites pointes de métal. Après, tu sais, soit avec mes flèches ou faire des couteaux. Hein. ça vient qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est vraiment complet, là. Après ça, dans un skill d'assistance, dans le fond, t'as de la survie. Là, avec ce skill-là, tu peux, dans le fond, faire des feux, faire créer des choses, ta cuisine. Justement, la cuisine, t'as le skill aussi pour monter, faire des recettes. T'as un skill de guérison, que tu peux te faire des bandages. Puis tu peux te faire des antivenins pour plus tard, là, même que quand que tu commences à avoir... des fois, tu te fais attaquer par des vipères, t'as fait la même. Des fois, tu te fais empoisonner. Fait que là, tu peux prendre un antipoison pour enlever ce poison-là. Parce que c'est comme un malus un peu qui t'enlève comme, mettons, 2% de vie à chaque seconde. Sauf que quand que t'es en plein combat, des fois, ça descend vite quand même. Sinon, il y a une aptitude d'identification, parce que des fois, quand que tu vas tuer, mettons, un squelette dans le cimetière, mais ben là, il va te donner un morceau d'armure, puis ce morceau d'armure-là, il est pas identifié. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, vu qu'il est pas identifié, tu as comme un skill d'identification aussi. Fait que si l'objet est plus haut que ton skill, ben là, tu peux pas l'identifier encore. Mais tu as des XP à chaque chose que tu fais dans le jeu. Chaque action que tu vas faire te rapporte des XP. La cartographie, je l'ai pas utilisé encore. Là, celle-là, j'étais à zéro. Ce qui est vraiment cool, celle-là, je l'aime bien, là, c'est l'apprivoisement. Même dans l'Ultima Online, on pouvait faire ça. Dans le fond, c'est que au début, tu commences avec un petit oiseau ou un lièvre. Tu y pitches un genre de petit collet, tu l'attrapes, là, tu lui donnes des carottes jusqu'à temps qu'il tombe ton ami. Là, tu lui donnes son nom, puis là, tu peux le traîner partout avec toi après. Puis après ça, quand tu montes ton skill d'apprivoisement, ben là, tu peux, comme là, moi, je suis rendu avec un renard, puis je peux apprivoiser aussi des chefs puis des boucs. Fait que là, c'est cool parce que eux autres, dans le fond, quand tu attaques un autre animal ou un monstre, peu importe, ben là, ils peuvent t'aider à attaquer aussi. Puis Ouais, c'est ça. Fait que là, lui-ci, il monte de niveau, dans le fond. Fait que plus qu'il attaque, plus qu'il tue d'autres animaux, d'autres monstres, ben plus qu'il fait de l'XP. Puis il monte à peu près en même temps que toi. Tu peux faire de l'alchimie. Tu peux, dans le fond, tu as des compétences aussi de combat. Des compétences d'épée, si tu te bats à l'épée, elle monte. Si tu te bats au couteau, si tu te bats à la hache, t'as un skill là encore différent. Si tu les armes contondantes, les armes de jet, puis les arcs. Les défensifs, t'as les armures légères, si tu t'habilles juste en cuir. Armure lourde, si t'es de full plate de métal. T'as des boucliers légers, boucliers lourds, puis t'as une autre aptitude, c'est pour parer dans le fond. Fait que plus tu pars au bouclier, mettons si tu portes tout le temps un bouclier léger, ben là tu montes ton skill en bouclier léger quand tu te bats, plus ton skill de par dans le fond. Puis c'est la même chose avec le bouclier lourd dans le fond. C'est ça, sauf que c'est... Moi je sais, j'étais à peu près tout au moins niveau 15 dans chaque... ouais, c'est à peu près ça, là. Poterie, travail du cuir, pis tout, là. Il y a des choses que j'ai comme tout le temps de besoin, mais moi, je me suis plus monté en arc. Arc à flèche avec mon couteau, parce que dans le couteau, dans le fond, c'est que dès que tu tues un animal, puis tu le dépeces pour prendre sa peau, puis la viande qu'il y a dedans, ça monte ton skill du couteau en plus, puis de dépeçage. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool. Il y a plein de choses qui montent tout le temps. Fait que, tu sais, c'est quasi pas infini, là, parce que tu as un maximum de choses que tu peux faire maintenant, là, mais c'est vraiment complet. Je vais faire le tour vite de tout ce que tu peux faire dans l'artisanat et construction. Je vais faire ça vite parce que, après moi, je pourrais en avoir pour une demi-heure juste pour ça. Puis là, vu que j'ai 3 jeux à parler, ben je vais essayer de faire ça plus vite pour la fin de celui-là. Dans le fond, dans les articles que tu peux faire, tu as les onglets survie que tu peux faire, des haches, des couteaux, des cannes à pêche, des flèches, des torches. Quand il fait noir, tu peux prendre une torche, des arcs. Les outils, des pioches, marteaux, hachettes, couteaux, pelles, des fossiles, ceux qui font de l'agriculture, des outils pour la cuisine, armure, des vêtements, ben là, ça c'est les armures en bronze, en acier, en cuir, en fourrure. Tu peux te faire, ben, toutes les armes, ben là, c'est épée, hache, dague, arc. Toutes les munitions, c'est soit les petites roches que tu peux pitcher avec des frondes, ou sinon des flèches ou des carreaux d'arbalète. Tes boucliers, ben là, tu peux te faire des boucliers aussi. T'as des objets exotiques qui appellent, eux autres, dans le fond, c'est que ça te prend des composants magiques pour fusionner avec, mettons, une hache en métal que t'as faite. Mais là, ça fait comme un petit objet... Eux autres, ils appellent pas ça légendaire, là, mais ils appellent ça des exotiques. Un peu comme dans Destiny, dans le fond, là, t'en as comme... ça prend vraiment beaucoup de composantes pour faire ceux-là, là. Sinon, tu peux te faire plein de collets différents pour attraper des animaux différents. Ta guérison, tu peux te faire ça, des bandages, comme je disais tantôt, mais en plus, tu peux être un genre de guérisseur d'animaux. Fait que quand tu as un animal avec toi, ben quand lui, sa vie abaisse, quand il se fait attaquer, ben là, tu peux le guérir, dans le fond. C'est comme un skill de vétérinaire, un peu. Tu peux te faire l'alchimie... tous les outils d'agriculture, de joaillerie, de poterie, cuisine, kit de construction, les matériaux dans le fond, c'est que si t'as besoin de planches, ben là il faut que tu coupes des arbres pour faire des rondins, puis là tu fais des planches, puis c'est fou, là il y a vraiment beaucoup de choses. Dans les immeubles, dans le fond aussi, c'est que ben là tu peux te faire des feux de camp un peu quand tu veux dormir un peu partout, mais tu peux te faire une genre d'hôtel de ville que t'as un une grosse capacité de stockage dans ça, parce que ton sac à dos il est assez limité quand même, fait que t'essayes de mettre le plus possible de choses dans ton chez-toi, dans le fond, dans ton hôtel de ville. Parce que le problème, c'est que sur la map ordinaire, la map principale, si tu meurs, tu comme tombes dans le genre de coma un peu, puis tu te réveilles à la même place. Mais si t'es dans un cimetière ou dans un donjon ou dans des zones autorisées PVP, joueur contre joueur, mais là, si tu meurs, tu réapparais chez vous, mais ton cadavre, il reste où est-ce que t'es mort, puis le gars, il peut tout piller qu'est-ce que t'as sur toi, il peut tout prendre qu'est-ce que t'as sur toi, fait que t'sais. Et idéalement, quand tu vas dans ces endroits-là, t'emportes pas 50 000 affaires parce que tu vas les perdre, tu vas être obligé de toutes les refaire après. Je me suis fait avoir une fois, puis c'était chiant un peu. Puis qu'est-ce qui est côté fabrication maison? Encore là, c'est vraiment complet, là. Tu peux te faire être la fondation, des murs, des portes d'entrée, des balustrades, des plafonds, des escaliers, ton toit. Tu peux faire un mur en pierre si tu veux, un mur en bois. T'as de la décoration, T'as des baies vitrées, c'est vraiment, vraiment complet, là. Mais tu sais, pour tout faire ça, là, il faut vraiment soit que tu joues beaucoup toi-même pour tout monter tes skills, ou sinon, ben là, tu peux acheter aussi. Il y a du monde que, dans le fond, ils vont se faire des genres de petits commerces, puis toutes les choses, les matériaux principaux, si t'en manques, ben tu peux aller les acheter à la ville, dans le fond, c'est juste que... L'argent est vraiment dur à faire, puis c'est pas donné. C'est vraiment. C'est de la débrouillardise beaucoup. Là. Il faut pas que tu arrêtes de soit chasser si c'est ça que tu fais, ou de couper du bois pour le revendre ou vendre des composantes, parce que ton argent est vraiment dur à faire. Ouais. Fait que pour conclure ce jeu-là, Wild Terra 2. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Je continue à jouer. Là. C'est juste que là, je joue comme à 2-3 choses en même temps. Fait que je passe un petit peu moins de temps sur chaque. Mais ouais, pour 40$, là, moi je trouve que ça vaut pas mal la peine. Puis tu sais, moi les packs, j'en ai pas acheté là, parce que je suis pas un assez gros joueur juste pour un jeu pour dépenser beaucoup dans les packs. T'sais. Fait que tu sais, moi ça me satisfait. Il y a tellement de choses à faire que j'ai pas besoin d'en mettre plus. Même. Fait que ça conclut pas mal pour Wild Terra 2. Je vais passer maintenant au prochain jeu qui est Lone Echo sur Oculus. Ça, pour vrai, là, c'est un bon petit jeu VR à 12$, puis ça fait la job en tabarnak. Pour vrai, c'est vraiment bon. Non, mais l'histoire est vraiment, vraiment cool. Dans le fond, Lone Echo, sorti le 20 juillet 2017. Nominé au Game Award 2017 pour le jeu VR de l'année. Développé par Ready at Dawn et édité par Oculus Studio. Lui, il est sorti sur la Rift, Oculus Rift. Compatible avec la Quest 2 si plugué avec ton USB dans ton ordi. Sinon, tu peux jouer aussi en Airlink pour ceux qui ont une bonne connexion. Faut pas que vous soyez... 2, 3, 4, c'est la connexion à la maison par exemple, parce que sinon ça lag beaucoup trop. Faut que tu vas voir que tu te plugues direct. C'est un jeu solo, genre aventure, exploration, narratif. Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup d'histoires, mais tu sais, il y a beaucoup de. Tu vas avoir des choix de réponse quand que. Mettons, les personnes te posent des questions. Mais tu sais, t'es pas là à lire, à attendre la narration pendant une demi-heure de temps. Là, c'est tout le temps interactif, c'est vraiment cool. Je rentrerai pas vraiment dans les spoilers du jeu parce que je l'ai pas fini. Fait que je peux pas spoiler la fin sans faire exprès. Mais je suis rendu quand même, j'ai une couple d'heures de fête. Fait que dans le fond, je vais parler un peu des missions qu'on a, mais t'sais, sans trop rentrer dans les détails. Je vais commencer par vous lire le synopsis. L'histoire du mode solo de Lone Echo vous propulse dans les anneaux de Saturne, au cœur d'un complexe minier dernier cri, sublimé par une station spatiale foisonnant de détails, des environnements galactiques à perte de vue et un équipement interactif. Vous incarnez Jack, une intelligence artificielle à la pointe de la technologie, intégrée à une enveloppe corporelle synthétique. En tant qu'assistant cybernétique, vous devez aider la capitaine Olivia Rode à percer un mystère de plus en plus menaçant. Lors de cette aventure captivante, vous serez appelé à utiliser des outils futuristes, votre logique et des dialogues interactifs pour agir sur le monde qui vous entoure. Exploitez au maximum les manettes de l'Oculus Touch et un gameplay à 360 degrés. Lone Echo vous précipite aux confins de l'espace comme jamais auparavant. Mais ça fait pas mal le... T'sais, ça explique pas mal ce qui se passe dans le jeu. T'es dans l'espace. Dans le fond, tu commences dans un vaisseau. Puis tu contrôles, dans le fond, c'est ça, justement, Jack, un genre de petit robot, là. Puis, dans le fond, dans le vaisseau, t'es tout le temps en apesanteur. Fait que ce qui est vraiment cool, c'est avec tes manettes, dans le fond, quand tu vas te promener en apesanteur, tu vas te pousser, puis c'est vraiment bien fait. On s'y croirait quasiment. Moi, je joue en... Pas en room scale, là, mais dans une chambre quand même petite, puis tu sais, je peux me déplacer assez facilement, là. Parce que dans le fond, vu que c'est surtout de l'agrippage, puis tu sais, dans le fond, tu te pousses pour bouger, dans le fond, dans ton espace de ton vaisseau en apesanteur, t'as pas vraiment besoin de beaucoup de place dans la salle où est-ce que tu vas jouer. Tu peux jouer dans un endroit assez restreint, puis ça marche en masse. Puis le début, ben tu sais, il t'explique quand même pas à pas comment que tes pitons vont marcher puis tout. Fait que tu sais, c'est pas garoché, c'est vraiment le jeu commence assez doucement, juste le temps d'apprendre tous les pitons de ta manette, puis à interagir avec le vaisseau dans le fond, puis l'ordinateur qui te parle. Mais tu sais, ça va vraiment bien là, c'est pas, t'es pas bousculé puis t'es pas pitché dans le jeu sans trop savoir quoi faire. Là. Puis là, je vais rentrer un petit peu dans les spoilers là, mais fait que si jamais vous avez pas joué pour vraiment savoir l'histoire, ben coupez ça puis recommencez un peu plus tard.
Spoiler. Je vais divulgacher.
Dans le fond, c'est tu vas sortir à l'extérieur du vaisseau pour faire de la maintenance. Puis tu te promènes, il y a des petits astéroïdes, dans le fond, des petites mines sur des astéroïdes proches. Puis là, tu vas aller arranger des choses parce qu'il y a eu comme une grosse explosion, genre de grosse explosion électromagnétique. Puis ça a tout fait planter les ordinateurs, puis tous les genres de petits robots qui travaillaient tout seuls sur l'astéroïde dans la mine, ils ont fucké un peu. Fait qu'il faut que tu ailles réarranger les batteries puis remettre tout ça en ordre. Puis là, ça va bien, mais il y a comme eu une genre d'anomalie un peu proche du vaisseau. T'es à côté de Saturne, je me souviens bien. Puis il y a comme une petite anomalie qui apparaît là, puis c'est vraiment, vraiment radioactif. Fait que même quand tu t'approches avec ton robot à m'amener le genre de bouclier anti-radiation de ton robot, il commence à s'effriter un peu. Puis dans le fond, ce qui est cool là-dedans, c'est que si tu meurs... Ton bouclier tombe à zéro, là, ton robot meurt, genre, mais tu réallumes dans un autre robot un peu dans le vaisseau. Fait que tu peux comme pas mourir vraiment, mais c'est juste que là, il faut que tu retournes où est-ce que tu étais. Mais c'est vraiment cool pour ça. T'as pas besoin d'être un gros gamer de fou puis avoir full skills pour jamais mourir. C'est quand même assez facile. Là, si jamais tu meurs, tu recommences dans un autre robot puis ça finit là. Puis là, on a, dans le fond, plus ça va, plus l'anomalie a grossi. Puis à un moment donné, ça fait une grosse, grosse explosion. Puis il y a ton vaisseau, il est vraiment gros. Où est-ce que t'es, là, déjà là? Puis là, il y a un méga, méga vaisseau spatial qui arrive. Là, il doit être au moins 10 fois plus gros que le tien. Déjà qu'il était gros, le tien. Là. Puis là, c'est assez fou. Là, il apparaît, il est comme magané un peu. Puis là, tu sais, ça pète tout alentour. Fait que là, tu te ramasses, tu te fais éjecter un peu, là, ta capitaine était dehors aussi, là elle s'est faite éjecter, puis là vous perdez le contact, puis là t'as trouves plus. Donc là, dans le fond, les prochaines missions, c'est d'aller essayer de trouver la capitaine. Puis là, à un moment donné, tu finis par savoir que la capitaine, la seule manière de survivre, parce que là elle était dans l'espace, il y a beaucoup de radiation, mais là elle a rentré dans le genre de vaisseau extraterrestre qui est arrivé dans l'anomalie. Pour essayer, parce que c'est comme la seule option qu'elle avait, si elle voulait pas mourir sur place. Fait que là, dans le fond, moi je suis rendu là. Je suis dans le vaisseau, ça fait un bout. Là, j'ai réussi à la trouver. Mais tu sais, ça fait un bout que je suis dans le vaisseau extraterrestre, puis que je cherche une coupe d'affaires. Là. Mais pour revenir un petit peu avant ça, quand que. Pour revenir au début. Ben, au début, quand que tu sors dehors, commencer à faire de la maintenance un peu. T'sais, des fois en VR, les graphiques sont pas super beaux, là, c'est pixelisé un petit peu, mais celui-là, il est vraiment beau quand même, j'ai été surpris. Puis quand t'es dans l'espace, là, sous ton vaisseau, là, c'est vraiment beau, là, t'sais, la planète Jupiter là, est énorme, c'est fou comment c'est énorme. On dirait que c'est là que tu te rends compte comment dans l'espace c'est gigantesque, quasiment à l'infini. Là. Puis t'sais, les contrôles sont vraiment cool, pareil, dans l'espace, là, t'as des petits jetpacks un peu... Après tes poignets, puis c'est comme ça que tu vas te contrôler en apesanteur. Puis tu sais, ça va vraiment bien, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Puis tu sais, ma blonde n'est pas habituée de jouer à des jeux vidéo. Puis là, l'autre fois, je l'ai fait essayer. J'étais sur le vaisseau, mais sur le dessus, mais dans l'espace, dans le fond. Puis tu sais, je l'ai fait mettre le casque, puis là, tu as trouvé sa voix, regardait partout. Puis là, je l'ai juste fait avancer un peu pour qu'elle décolle du vaisseau, puis que là, à ses pieds, ça soit le vide, puis elle a comme failli tomber parce qu'elle a peur un peu d'hauteur, puis vu que c'est quand même très réaliste, elle a comme eu un petit moment de vertige. Je trouvais ça vraiment drôle parce que c'est vraiment assez réaliste pour qu'elle sente le genre de vide en dessous d'elle. Là. Puis ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est quand, tu sais, mettons, avec tes mains de robot, tu peux prendre plein de choses. Dans le fond, il y a plein de choses dans le vaisseau, tu sais, qui flottent dans les airs, des tournevis, des outils. Puis, tu sais, des fois, ils vont venir te revoler dans le casque, puis ça va cogner un peu, puis ils vont redériver ailleurs, tu sais. Puis tu peux, mettons, il y a un boulon qui vole, tu le pognes avec tes mains, dans le fond, puis tu le repitches, puis là, il va redériver en apesanteur jusqu'à temps qu'il se cogne ses mains, puis ils reviennent. C'est vraiment bien fait. Même, tu sais, au début, la capitaine, elle te parle quand elle t'apprend un peu, tu sais, dans le fond, quel piton peser pour quoi faire. Puis là, quand tu commences à bouger tes mains, tu sais, j'y ai mis ma main dans sa face. Puis là, elle a comme tassé ma main, genre, pour faire, tu sais, genre, autour de là. Je trouvais ça cool. Pareil, tu sais, que, tu sais, souvent, il y a bien des jeux, mettons, en VR, que tu vas faire n'importe quoi avec tes mains, puis il n'y a aucune interaction qui se passe. Mais là, elle a vraiment l'interaction de sa main dans sa face. Puis, sur ton casque, t'as comme une petite lampe. Puis quand tu... T'as amené, t'es dans le noir, puis il faut que t'ailles parler au capitaine. Puis là, quand tu l'ouvres ta lampe, puis tu le regardes, mais là, elle se sent aveuglée, puis là, elle se met son bras dans ses yeux, puis elle fait comme « Ah, éteins ta lampe! » C'est juste ça, j'ai trouvé ça vraiment réaliste, là. Tu sais, t'en regardes un petit peu à côté, c'est correct, puis dès que tu le regardes d'en face, là, elle est comme aveuglée. Puis ça aussi, c'est juste un petit... T'sais, ça sert à rien, mais c'est juste une petite affaire cool qui fait que le jeu il est plus immersif encore. Ouais, fait qu'à part ça, je peux pas vraiment dire ben plus parce que je suis pas rendu. Je sais pas à combien de pourcents du jeu que je suis rendu, mais j'ai pas tout fini. Fait que je peux pas dire plus loin comment que ça s'est passé pour moi. Mais pour 12 piastres, moi je trouve que ça vaut vraiment la peine. Là, c'est vraiment un bon jeu. Puis là, j'ai vu. Je sais que ça fait un petit bout que le 2 est annoncé. Puis là, il est sorti dans le fond sur. Il est sorti le 12 octobre sur Oculus Store. Là, présentement, par exemple, il est à 45,99$. C'est sûr que le jeu, il a beaucoup pogné. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils le mettent un petit peu plus cher, le 2. Là, ils savent que ça va quand même se vendre. Mais tu sais, c'est la même chose. C'est encore un mode de jeu solo. Pas besoin de connexion internet pour jouer. À part si tu joues en Airlink, là, c'est sûr, il faut que ton Wi-Fi soit allumé. Sinon, c'est encore la même chose, là, assis, debout ou en room scale. C'est, celui-là, par exemple, il est juste en anglais. L'autre, il était en français, anglais, espagnol, chinois, allemand, je pense aussi. Il y a une couple de langues déjà, mais là, celui-là, il n'y a rien qu'en anglais. Fait que peut-être un petit peu plus tard, ils vont le traduire en plusieurs langues, mais... ouais, c'est ça. Fait que pour l'instant, c'est en anglais à 45,99$ sur l'Oculus Store. Ouais, ben ça conclut pas mal l'épisode d'aujourd'hui. Un petit peu de Comic-Con, puis deux bons jeux. Un PC et un VR. La prochaine fois, je vais essayer de vous parler de The Outer World. Un jeu PC qui est sorti en 2019, je viens juste à peine de le finir, puis finir l'histoire principale, mais il me reste beaucoup de choses à trouver encore et à déverrouiller. Fait que je vais faire une couple d'heures encore dessus, puis je vais vous parler ça peut-être au prochain épisode. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. On se retrouve pour un prochain épisode de Intergénération. Ici Max Charrette et je vous souhaite une très bonne soirée.